La parole des contes avec Anne Wong.
Chers auditeurs, chères auditrices, joyeux dimanche. Cette fois-ci, nous ne partagerons pas un conte, mais nous allons nous interroger sur la posture du conteur dans nos sociétés modernes. Avec Walter Benjamin, né en 1892 et mort en 1940, qui lit l'œuvre du russe Nicolas Leskov, et plus particulièrement le voyageur enchanté, qui relate l'histoire, des histoires, de voyageurs sur un bateau. Ils sont intrigués par un colosse qui peu à peu va installer le temps de l'histoire pour raconter, pour se raconter. Ce voyageur enchanté va enchanter les autres voyageurs du bateau. Les mène-t-il en bateau ? Il se raconte. Il raconte une vie invraisemblable. Il fut esclave, un cerf en Russie. Sachant que je vous rappelle que l'esclavage fut aboli officiellement en Russie en 1864. Et Nicolas Leskov est né en 1831. Et aussi, j'ai fait des petites recherches sur Wikipédia pour découvrir avec un choc au cœur que Nicolas Leskov, d'après Wikipédia, aurait été marchand d'esclaves. Comme me disait un ami, il est des métiers qu'il faut savoir ne pas faire, même si Molière nous dit qu'il n'y a pas de saut métier. Enfin, chacun son éthique. Hein. Donc, ce colosse en voyage sur un bateau raconte qu'il fut esclave, dresseur de chevaux, vagabond, soldat, moine. Et Walter Benjamin, à partir de la lecture de l'œuvre de Nicolas, découvre que l'art de raconter est en voie de se perdre. D'une part parce que plus personne ne sait compter, et d'autre part, quand l'un s'y essaye, il crée dans l'assistance un certain malaise. D'ailleurs, conteur qui m'écoutait, parce que j'espère que parmi les auditeurs, il y a aussi des conteurs, est-ce que vous n'avez pas déjà ressenti un malaise dans le regard d'une mère qui a déposé son enfant en bibliothèque, qui le surveille du coin de l'œil, tout en regardant avec attention sa montre pour ne pas faillir à un emploi du temps programmé ou programme très chargé. Alors que le conte, tout au contraire, ouvre un espace temporel où soudain, par je ne sais quelle magie, comme dit le poète, le crayon redevient un forêt, la craie redevient un falaise et deux ne font plus quatre. Ouais, Jacques Prévert disait ça. Et c'est vrai que c'est pas difficile, non, mais ça nécessite de prendre du temps pour installer l'espace du conte et cette fracture temporelle qui va rassembler l'assistance. Et Walter Benjamin constate que la disparition de l'échange d'expérience et que ses congénères s'appauvrissent d'expériences communicables. Et donc, il trouve que de son temps déjà, après la Deuxième Guerre mondiale, les êtres n'avaient plus rien à se dire qui vaille la peine d'être dit. Et ce ne sont pas nos réseaux dits sociaux et de communication qui nous remplissent, nous enrichissent d'expériences. Ils nous rendent toujours plus avides de l'espoir que ma pauvre parole soit vue, entendue et je deviens addict à un outil qui se moque de moi. Tel le diable dans les histoires. Walter Benjamin nous raconte qu'il y a deux grands types de narrateurs. Le paysan sédentaire et le voyageur, le marchand, le marin. Et que mon assassin pénètre par moments. Il nous raconte que l'explication tue l'expérience. L'information tue l'expérience. Et que, en fait, bon, la science, qui est beaucoup dans l'explication et l'information, même si elle se revendique d'expérience, en fait, elle tue l'expérience elle aussi. Cette expérience qui fait que, à la fois, je me transforme et je transforme l'autre. Et ce faisant, je transforme ma propre histoire, ou mon regard sur elle, ou je ne sais quoi d'autre. Enfin, il y a de la transformation dans l'air. Il raconte que l'expérience, quand elle se transforme juste en information ou en explication, elle meurt. Alors que la narration, qui ne se livre pas, qui contient son merveilleux, interroge et reste en tête. Et en tête. N'avez-vous pas entendu parfois des contes qui vous reviennent après ? Ils ont quelque chose à vous dire. Ils ont à parler à notre inconscient. Mais la société moderne se moque éperdument de l'inconscient. Donc, Walter Benjamin constate que le roman se développe avec brio et intensité à partir de l'imprimerie qui permet à l'écrivain de se mettre en retrait tandis que le narrateur nourrit sa narration par son expérience ou avec les expériences entendues, narrées ailleurs et reprises dans sa narration. Pour que la parole conteuse émerge, il est nécessaire de créer un climat de détente, tant pour le conteur, afin qu'il délivre sa parole, que pour l'auditeur, afin qu'il soit davantage réceptif à cette parole peu ordinaire. Une sorte de transe collective, d'hypnose. Et déjà, autant contemporain de Walter Benjamin, il n'y avait pas d'espace pour cela, c'est du moins ce qu'il dit. Et à ce jour, encore moins, où le béton, le bitume, les immeubles, les autoroutes mangent, et la nature, et disparaît le petit sentier où croissait la noisette. Hein, et sentait bon la noisette, et où il sentait bon de courir sur les petits chemins qui sentent bon la noisette. Maintenant, c'est plus compliqué à trouver. Enfin, ça existe encore, mais il faut vraiment chercher, quoi. On a les yeux abîmés par le bitume et par les immeubles qui sont faits avec des matériaux rentables. Et Walter Benjamin n'avait pas encore entendu parler d'Internet et de la société moderne. Il dit aussi que le récit a un aspect utilitaire, une sorte de moralité parfois, une recommandation pratique, un proverbe, une règle de vie. Le narrateur est un homme de bons conseils. Et il dit aussi que aujourd'hui le sage ou l'homme de bon conseil a disparu. Aussi, dans ce monde moderne, dit-il, nous ne savons plus nous conseiller nous-mêmes, ni conseiller autrui. Conseiller, c'est moins répondre à une question que présenter une suggestion concernant la suite d'une histoire en train de se dérouler. Pour recevoir cette suggestion, il faudrait d'abord
être capable de raconter une histoire. Sans compter qu'un homme ne peut profiter d'un bon conseil que s'il est capable de décrire la situation où il se trouve. Mais bien souvent, on est coincé, engoncé, un peu stressé dans notre situation. On ne sait pas la dépasser, on ne sait même pas la nommer. Tu sais, dans l'étoffe même de la vie, le conseil est une sagesse. Si l'art narratif tente à se perdre, dit toujours Walter Benjamin, c'est parce que cet aspect épique de la vérité, qui est la sagesse, meurt lui aussi. Le processus ne date pas d'aujourd'hui, et rien ne serait plus fou que de le considérer comme un simple phénomène de décadence, à plus forte raison comme un fait spécifiquement moderne. Il s'agit bien plutôt d'une manifestation parallèle à l'évolution historique des forces productives. C'est cette évolution qui, au cours des siècles et de façon tout à fait progressive, a éliminé le récit du domaine de la parole vivante. En fait, comme disent d'autres agronomes, nous vivons dans un monde où nous mangeons la mort, nous avons une agriculture de mort, on met des pesticides, des insecticides, enfin on tue la terre, on récolte des produits morts, on mange la mort. Et tandis que la mort est totalement effacée de nos sociétés modernes. C'est ce que explique Benjamin dans les paroles suivantes. Depuis toujours, la pensée de l'éternité a trouvé dans la mort sa principale source. Si cette pensée s'affaiblit, c'est, on peut le présumer, que la mort a pris elle-même un autre visage. Cette modification se confond avec celle qui a rendu l'expérience moins communicable, à mesure que déclinait l'art de la narration. Au cours des derniers siècles, on peut constater combien dans la conscience commune, l'idée de la mort a perdu de son omniprésence et de sa force suggestive. À ces dernières étapes, le processus s'est accéléré. Au XIXe siècle, la société bourgeoise, avec ses institutions hygiéniques et sociales, privées et publiques, a obtenu un résultat accessoire qui était peut-être inconsciemment son but principal, permettre aux hommes de ne plus assister à la mort de leurs congénères. La mort représentait jadis dans la vie de l'individu un acte public de valeur hautement exemplaire. Qu'on songe à ces tableaux du Moyen-Âge où le lit de mort est devenu un véritable trône vers lequel afflue tout un peuple à travers les portes grandes ouvertes de la maison mortuaire. À mesure qu'avancent les temps modernes, la mort échappe de plus en plus à l'attention des vivants. Jadis, il n'y avait guère de maison ni de pièce où quelqu'un ne fût mort. Le Moyen-Âge percevait aussi dans l'ordre de l'espace qui signifie, dans l'ordre du temps, l'inscription du cadran solaire d'Ibissa, la dernière pour beaucoup. En latin, ultima multis. Aujourd'hui, les bourgeois vivent dans les lieux où personne n'est mort. Froids habitants de l'éternité, qui, leur venue, iront mourir en maison de santé ou en clinique dans la plus grande discrétion. Or, c'est surtout chez le mourant qu'on voit prendre forme de réalité transmissible, non seulement le savoir ou la sagesse d'un homme, mais surtout le contenu même de sa vie, c'est-à-dire la matière dont sont faites les histoires. De même qu'au moment de la mort, il voit défiler intérieurement une série d'images faites de vues prises sur sa propre personne dans les instants où, sans le savoir, il s'est lui-même rencontré. Ainsi, d'un seul coup, dans ses gestes et ses regards, c'est l'inoubliable qui surgit et qui confère à tout ce qui concerne cet homme l'autorité dont se revêt pour les vivants, à l'heure de la mort, jusqu'au plus pauvre diable, la narration repose sur cette autorité. Ensuite, Walter Benjamin nous raconte aussi, au temps des mythes, la posture de l'auditeur. L'auditeur connaît l'histoire. Il a déjà la mémoire de l'histoire et il ne vient pas là pour qu'on lui raconte une histoire qu'il ne connaît pas. Et il faut toujours renouveler les histoires, comme bon, on peut voir les romans qui se succèdent sur les devantures des librairies et où il faut toujours faire de la nouveauté et surprendre, alors que dans le mythe, l'auditeur est là, connaît l'histoire, et c'est une sorte de travail de mémoire collective, car une histoire qui est racontée, elle n'est pas là juste pour distraire, elle est là pour faire mémoire, pour que toi, auditeur, tu t'en souviennes, toi aussi, et que tu la racontes à ton tour. Car les histoires, s'ils ne sont pas racontées, elles meurent. Aussi, chacun de nous est responsable des histoires de l'humanité. Chers auditeurs, chères auditrices, le saviez-vous, nous ne sommes pas en direct. Aussi, au moment où je vous parle, je ne suis pas encore partie au Liban. Et vraisemblablement, quand vous m'écouterez, et merci de m'écouter, eh bien, je serai revenue. Et en attendant, alors pourquoi je vais au Liban ? Pour participer à un festival de contes. Et j'aurais aimé donc vous faire partager une chanson qu'a écrite Guy Béard et plus d'autres nombreux écrivains de chansons qui s'intitule « Liban libre ». Et c'est effectivement ce qu'on peut souhaiter. Un Liban libre, une Palestine libre et une Israël libre aussi. Et que chacun vive.
Liban libre, libre Liban, enfants libres, libres enfants, et tous les martyrs, chrétiens, musulmans, avant de partir, ont crié ce chant. Liban libre, libre Liban, enfants libres, libres enfants, toi qui nous montras tant d'humanité, qui ouvrit les bras aux déshérités. Liban libre, libre Liban, si ton rivage fraternel à Dieu ne plaise, allez mourir. Je ne crois pas que l'arc-en-ciel sur terre pourra revenir, pour qu'un beau jour le monde entier ne vive pas dans la terreur. Je ne dois jamais oublier le petit Liban au grand cœur qui offrit l'hospitalité à tous les peuples poursuivis de l'envie pour persécuter de la vie.
Liban libre, libre Liban, enfants libres, libres enfants.
Libre sur la mer, libre sur les routes, dans les cœurs ouverts et libre à Beyrouth. Liban libre, libre Liban. Ah, Elouna, yes, Elouna, yes, Elouna. Liban libre, libre Liban, enfants libres, libres enfants. Des montagnes pures, on les a salies avec les blessures de l'argent folie. Liban libre, libre Liban, Avec la drogue, avec les armes, au lieu des fruits de tes vallées, on fait de l'or, on fait des larmes, on fait du sang avec du lait. On sait même payer la corde pour être pendu, payer pour la miséricorde et payer pour être vendu. Payer pour devenir esclave, payer pour être massacré, payer pour vivre dans les caves, enterré. Liban libre, libre Liban, ton chant vibre, vibre ton chant, vibre dans nos cœurs, vibre dans nos corps, pour que le bonheur nous survive encore. Liban libre, libre Liban. Que tous tes enfants avec l'harmonie du ciel et du temps retrouvent leur nid.
Liban libre, libre Liban.
Le fond, le vert de l'espérance, le vert du cèdre du Liban, le blanc du lait de la naissance, le rouge du sang des vivants.
Le fond, le vert de l'espérance, ensemble partout mieux qu'avant, réunis pour la renaissance du monde en paix pour les enfants. Liban libre, libre Liban.
Merci, chers auditeurs et chères auditrices, de m'avoir écouté et à la semaine prochaine, car ça en vaut la peine.